Herr, wir loben dich auch für diese Versammlung, Herr.
Seigneur, nous te louons aussi pour cette réunion. Nous nous humilions sous ta main puissante. Parle à ton Église, Seigneur. Seigneur, nous te louons pour ta parole à Sion. Louez le Seigneur. J'espère qu'on peut m'entendre. Alléluia. Amen, Seigneur, nous te louons pour ta parole. Louez le Seigneur. Hier soir, j'ai vraiment apprécié le fait que le Seigneur parle directement à son Église. C'est ce que nous voulons aussi expérimenter ce matin. Nous ne sommes pas là pour entendre la parole d'un homme, mais pour la parole du Seigneur. Et en effet, ce livre de l'Apocalypse est unique dans ce sens, que le Seigneur parle directement à son Église. Et pendant cette conférence, nous voulons aussi être de telles personnes qui écoutons directement sa voix. C'est pourquoi il est écrit sept fois que celui qui a des oreilles pour entendre, non pas ce qu'un homme dit aux églises, mais ce que l'Esprit dit aux églises. Louez le Seigneur. Nous prions pour que par son Esprit, il puisse nous parler à tous pendant cette conférence. Seigneur, apparais-nous aussi par ta parole. Et ensuite, hier soir, nous avons vu
dass es Boten gibt in der Gemeinde.
Qu'il y a des messagers dans l'Église, mais ces messagers ne sont pas seulement des messagers, mais ce sont des étoiles dans la main du Seigneur. Ainsi, nous ne voulons pas seulement parler la parole, mais notre fardeau est qu'il y ait quelque chose qui brille, qui sorte de nous, afin que toutes les ténèbres autour de nous puissent être contenues. Nous ne sommes pas juste là pour donner un message, mais nous espérons que la lumière brille. Seigneur, brille au travers de nous tous. Ce matin, nous venons à la première église, au premier chandelier d'or. Nous devons nous exercer à changer notre vocabulaire. Nous devons voir que l'église n'est pas juste un endroit où nous nous rencontrons, mais c'est beaucoup plus un chandelier d'or. Lisons ensemble l'épître à Éphèse, Apocalypse 2, 1 à 7.
Christian, wollt ihr es bei euch mal lesen mit?
Christian, est-ce que vous pourriez lire cela chez vous?
Ja, genau, lese mal alles vor.
Okay.
Amen.
Dem Boten
à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu.
Den Gemeinden sagt, wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist.
Halleluja. Amen.
Halleluja. Amen.
Oh Herr, Halleluja.
Seigneur, merci Seigneur. C'est celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, ce qui marche au milieu des sept chandeliers d'or qui dit cela. Oui, entendons vraiment ce que le Seigneur a à dire aux chandeliers d'or ici à l'église à Éphèse. D'abord, le Seigneur a dit, je connais tes œuvres et ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. L'Église à Éphèse avait des œuvres magnifiques. Elle avait des œuvres et des œuvres. Elle avait même du travail et de la persévérance. Même les méchants, ils ne pouvaient pas les supporter. Ils ont éprouvé. Ils ont mis en évidence des menteurs. Ils ont même de la persévérance. Ils ont pas souffert un petit peu, mais beaucoup. Ils ont porté beaucoup. Ils ne se sont pas lassés en faisant cela. Et au verset 6, ils ont même dit qu'ils ont haï les œuvres des Nicolaïtes. Cette église à Éphèse avait beaucoup de merveilleuses choses. Ce n'étaient pas des œuvres quelconques. Certainement, ils ont donné leur meilleur en ceci pour plaire à Dieu. Partout, dans tous ces points, ils ont reçu une bonne note du Seigneur. Pour le travail qu'ils ont fourni, ils ont reçu un 6. Pour les œuvres, ils ont aussi reçu un 6 ou un 10 en France. Ils n'ont pas pu supporter les méchants. 6. Ils ont exposé les apôtres. Ils se sont... J'ai compté, il y a 10 œuvres que le Seigneur relève. Et dans ces 10 œuvres, ils étaient au top. Ils étaient au sommet. Dans chaque domaine, ils ont obtenu la meilleure note du Seigneur. Ce n'est pas mal. Un tel témoignage, j'aurais bien voulu l'avoir à l'école. Ne faire que des 6. Rainer, est-ce que tu as eu de tels résultats scolaires? 6. Sport, 6. Allemand, 6. Maths, 6. Art, 6. Des 6 partout. Mais au verset 4, il est écrit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ils ont reçu un 6 partout, mais par rapport à l'amour pour le Seigneur, ils ont échoué. Et parce qu'ils ont échoué dans leur premier amour, le chandelier ne valait plus rien. Et le Seigneur l'a rejeté. Nous dirions, oh là là, est-ce que c'est juste de faire cela? Il y a eu 10, 6 et 1, 3 et demi. Et déjà, le chandelier a disparu. Est-ce que c'est justifié? Oui. Pourquoi? Parce que l'amour pour le Seigneur est l'élément principal. Et si cet élément manque, il n'y a rien. Il y a quelques semaines, nous avions envoyé un courriel à un étudiant. Et il m'a écrit, il a dit, j'ai un très grand problème. Il a écrit un email désespéré. Il a écrit, je suis sur le point de devenir un enseignant. Et je suis en train de terminer mes études. Je suis presque terminé avec mon travail de master à l'université. Je suis peu avant les résultats finaux. Et j'ai tout réussi, tout ce que j'ai pu atteindre. Et partout, j'ai réussi. Et j'ai tout fait bien jusqu'à ce point. Tout est là. Je Je ne sais pas s'il a fait des six, mais dans tous les cas, tout était réussi, tout était. Et ensuite, il a écrit, mais dans votre cours, j'ai échoué. Et pas seulement une fois, mais déjà deux fois. Et je suis, ce qui me guette, c'est l'exmatriculation. Et je peux laisser de côté toutes mes études. Il est marié, et puis il a des enfants, et à cause d'un cours, eh bien, il est à la fin. Et maintenant, j'ai échoué chez vous. Cela ne m'a pas laissé sans sentiment. Mais dans un cours, il a échoué. Et cela l'a presque conduit à perdre toutes ses études, tout ce qu'il avait acquis. Heureusement que j'ai pu l'aider. Mais qu'en est-il chez nous? Nous avons tant de choses, beaucoup d'œuvres, nous faisons beaucoup de choses. Mais si cet élément de l'amour est manquant, alors tout notre cours passe à l'eau. Tout le reste ne compte pas, c'est étonnant. Même si tu étais dans le Seigneur pendant 2 ans déjà, ou 20 ans, le chandelier est ôté si le premier amour n'est pas là. Oh Seigneur, lisons 1 Corinthiens 13. Paul dit, il dit la même chose. À partir du verset 1, il est écrit, je vous le lis, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, ça c'est pas mal, hein ?» Parler en langue, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient parler en langue, même le langage des anges. Mais si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la prophétie, c'est encore mieux que le parler en langue, dit Paul. Mais même si j'ai le don de la prophétie et la science de tous les mystères, et si je connais, j'ai toute la connaissance. Est-ce que vous ne croyez pas que ce serait merveilleux si nous avions tous de la connaissance? Et quand j'aurais même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes? Est-ce que quelqu'un a déjà pu transporter une montagne? Mathias, combien de montagnes as-tu transporté à Berchtesgaden? Je vous ai rendu visite dernièrement. Il y a une belle montagne juste devant la porte. Est-ce que tu as déjà essayé de la transporter? Elle est toujours là, n'est-ce pas? Même si tu le pouvais. Et si tu recevais un 6 en faisant cela, et si tu faisais donner un message là autour, tout le monde serait étonné. Tout le monde dirait, mais quelle foi que ce frère. Ah, tous les hommes diraient cela. Mais le Seigneur dirait, eh bien, cela ne sert à rien si tu n'as pas l'amour. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Je suis rien, dit au verset 2. Au verset 3, cela ne me sert à rien. C'est étonnant à quel point le Seigneur met en évidence l'importance de l'amour, de cette relation intérieure des croyants avec l'époux. Si tu ne manques d'amour, même si tu as beaucoup d'autres choses, eh bien, tu échoues. Le Seigneur dit, je ne suis rien. Même pas un petit peu. Il dit, je suis rien. Oh Seigneur, Et ici, c'est l'amour de Dieu qui est décrit ici. Et je dois me poser la question, d'où est-ce que je reçois cet amour pour le Seigneur? Pensez-vous que dans le monde autour de nous, il y a un tel amour? Dans ce monde, il n'y a pas d'amour. Durant ces jours, j'ai lu dans 2 Timothée 3, je vous le lis, à partir du verset 1. Parce que cela correspond à l'âge dans lequel on vit. Il est écrit, chapitre 3 de Timothée, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Est-ce que nous ne vivons pas dans les derniers jours aujourd'hui? Nous savons tous que le Seigneur vient bientôt. Et dans ce temps, nous vivons aujourd'hui. Et comment, quelles sont les caractéristiques de ces temps difficiles? Verset 2, il est écrit, car les hommes seront égoïstes. Le premier point que le Seigneur mentionne est en lien avec l'amour, mais pas avec l'amour pour Dieu notre Père et à Christ, mais ici c'est l'amour pour soi-même. Et le deuxième point est aussi en lien avec l'amour, l'amour de l'argent. L'amour est très important. Mais ici, nous voyons que cet amour est porté vers d'autres choses. Troisième point, c'est insensible. Il n'y a pas d'amour dans ce monde. Et à la fin du verset 3, ennemi des gens de bien. Verset 4, qui aime le plaisir plus que Dieu. Dans ces quelques versets, nous voyons combien Paul a parlé au sujet de l'amour. Bien sûr, pas au sujet de l'amour dont nous parlons ici, mais de ce que nous voyons autour de nous dans le monde. Ennemi des gens de bien, des choses bien. Est-ce que vous pensez, dans le monde, il y a tellement de gens qui aiment le bien, qui ont tellement de sentiments pour nous. Par exemple, notre gouvernement, des dignités dans ce monde. Est-ce qu'ils aiment le bien, de telle sorte qu'ils veulent nous faire du bien? Ils aimeraient protéger notre santé et tout faire pour que ça aille bien. Pensez-vous qu'ils aiment tellement le bien? Paul nous montre. Ils sont sans amour parce que nous vivons dans les derniers temps. C'est vraiment, il n'y a pas d'amour. Même quand ils se justifient et puis disent, regardez combien j'ai de l'amour pour vous en vous proposant tant de mesures de protection pour votre protection. Dernièrement, j'ai lu un verset dans Luc, verset 22. Le Seigneur dit quelque chose par rapport à ses autorités. Au verset 25, il est écrit, Luc 22, 25, Jésus leur dit, « Les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. » N'est-ce pas ainsi? Extérieurement, tout le monde pense, ils se disent, « Mais ce sont des gens de bien, ils nous veulent du bien. » Mais en fait, le Seigneur a dit qu'ils exercent de la violence. Ce n'a rien à voir avec l'amour. Ce sont d'autres motifs. Il y a d'autres choses qu'ils aimeraient faire. Nous vivons aujourd'hui dans ce monde environnés de telles choses, plein d'iniquité, d'injustice. Ne pensez-vous pas qu'un tel environnement ne peut pas avoir une influence sur notre amour pour le Seigneur? Dans Matthieu 24, il est écrit, au verset 12,
Matthäus 24, Vers 12. Und weil die Gesetzlosigkeit,
parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est cela. Autour de nous, il y a tant d'iniquité, d'injustice. Si nous observons ce monde et nous vivons dans ce monde, ne pensez-vous pas que si nous ne faisons pas attention, si nous ne nous repentons pas, cela peut refroidir notre amour pour le Seigneur. Il est même écrit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Que le Seigneur nous soit miséricordieux. Que l'amour pour le Seigneur en nous ne se refroidisse pas. Au contraire, qu'il augmente. Continuons de lire dans 1 Corinthiens 13, où nous en sommes arrêtés avec le verset 3. Là, l'apôtre nous décrit l'amour de Dieu. Dans Romains 5, il est écrit que l'amour de Dieu était déversé dans nos cœurs. Louons le Seigneur pour cela. Malgré le fait que nous vivons dans un monde qui est sans amour, nous qui sommes nés de nouveau, Dieu a déversé son amour dans nos cœurs. N'est-ce pas merveilleux? Par son esprit qui est en nous. C'est merveilleux. Mais de quel amour s'agit-il? Nous pouvons continuer de lire 1 Corinthiens 13 à partir du verset 4, une merveilleuse description. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Amen. Il n'y a pas tant de choses à dire. Ces versets parlent merveilleuses par eux-mêmes. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. C'est vraiment à l'inverse de l'amour de ce monde. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. N'est-ce pas merveilleux? Y a-t-il encore de l'amertume dans nos cœurs? Alors tournons-nous vers cet amour. Réjouissons-nous de cet amour. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Est-ce que nous connaissons un tel amour? Il ne se réjouit point de l'injustice. Peut-être pensons-nous que l'amour de Dieu est en lien avec nos émotions et que c'est juste des émotions positives. Mais ici, il est écrit qu'il ne se réjouit point de l'injustice. Lorsque nous contemplons le monde autour de nous et ce qui se passe dans notre pays, aux États-Unis, mais en fait dans le monde entier, à quel point l'iniquité s'agrandit, je crois. Est-ce qu'il y a une réaction dans nos cœurs? Est-ce qu'il y a quelque chose qui réagit en nous ou est-ce que nous pensons que cela n'a rien à voir avec l'amour? Je veux juste avoir de l'amour, mais il n'y a pas de réaction en moi. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour qui a été déversé dans mon cœur a une réaction à l'égard, à l'encontre de l'iniquité qui m'entoure. Ce n'est pas une réaction par une activité. Mais dans nos cœurs, nous avons une réaction que nous ne nous réjouissons pas à ce sujet, mais aussi nous haïssons cela. Souvenez-vous ce que Hébreu a dit à ce sujet. Le Seigneur aime la justice, mais il ne s'arrête pas là. Le Seigneur aime la justice, a aimé la justice. Rainer, quelle est la deuxième partie du verset? Et il a haï l'iniquité.
Ça
m'a vraiment étonné. Lorsque j'ai eu de la communion avec le Seigneur à ce sujet, cet amour que le Seigneur a déversé dans mon cœur peut aussi haïr certaines choses, non pas les hommes bien sûr, mais l'iniquité, nous pouvons la haïr. L'injustice qui nous environne, est-ce qu'il y a une réaction en nous? Ou pensons-nous que ça ne fait rien? Nous ignorons cela.
Dans
Proverbe 6, il y a même toute une liste de choses que le Seigneur ait. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je vais l'ouvrir. Ça nous donne un sentiment. À partir du verset 16, Proverbe 6, 16, il y a six choses que hait l'Éternel. Est-ce que vous pensez que le Seigneur hait quelque chose? Vous pensez certainement qu'il parle de l'amour. Maintenant, tout à coup, ici, il nous parle de haine. Mais le Seigneur hait certaines choses. Et que sont ces choses? Ce sont les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent. N'avez-vous pas vu ces choses dans le monde qui nous entoure? Le cœur qui médite des projets iniques. J'ai vu beaucoup de choses semblables dans les mois passés autour de nous. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Le faux témoin. Ne pensez-vous pas qu'il y a beaucoup de faux témoins qui disent des mensonges? Et celui qui excite des querelles entre frères. De telles choses, le Seigneur les hait. Oh Seigneur, cela nous montre que l'amour que le Seigneur a déversé dans nos cœurs va toujours ensemble avec sa lumière. L'amour et la lumière coexistent toujours. Nous ne pouvons pas les séparer. C'est pourquoi la lettre à Éphèse, nous n'avons pas seulement la parole sur le premier amour, mais nous avons aussi la parole du Seigneur au sujet du chandelier qui donne la lumière. Si le premier amour a disparu, eh bien la lumière a aussi disparu. Si la lumière a disparu, alors le Seigneur doit rejeter tout le chandelier. L'amour et la lumière vont ensemble, comme dans 1 Jean. C'est exactement la même chose. Tout au début, le Seigneur nous dit que nous avons touché la parole de la vie. Et le message que je vais vous donner, c'est que Dieu est lumière. Et la prochaine message, c'est Dieu est amour. Donc, dans la lettre 1 Jean, nous avons aussi cette combinaison entre la lumière et l'amour, comme dans cette lettre adressée à Éphèse. Amen, Seigneur Jésus. Brille dans nos cœurs. Et ensuite, dans Apocalypse 2, verset 4, il est dit que tu as abandonné ton premier amour. Ce n'est pas une bonne nouvelle si le Seigneur doit te dire qu'il a quelque chose contre toi. Mais louez le Seigneur, que le Seigneur nous le dit aujourd'hui, que nous avons une opportunité pour nous repentir. Ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné ton premier amour. Nous n'avons pas juste perdu notre premier amour. Nous perdons souvent quelque chose, un téléphone portable ou autre, mais ici, il est écrit, tu l'as abandonné. Il y a une intention qui est là, de manière consciente. Tu as laissé entrer d'autres choses qui ont volé la place du premier amour. Oh Seigneur, le Seigneur nous montre ici, dans l'évangile de Matthieu 22, verset 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Avec un cœur partagé? Est-ce que notre cœur est partagé pour le Seigneur? Une partie pour le Seigneur et une partie pour notre travail, pour notre carrière, pour notre famille, pour nos études, pour notre futur, pour être la sécurité par le travail de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est même un commandement. Ce n'est pas seulement un commandement, mais c'est le premier et le plus grand. Si nous échouons sur ce commandement-là, eh bien, nous avons échoué partout ailleurs. C'est le plus grand commandement. Matthieu 10, verset 37, c'est la même chose. Le Seigneur dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi. On peut aimer certaines choses ou certaines personnes plus que le Seigneur. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, ce n'est pas juste, ok, ce serait mieux s'il m'aimait moi, mais il dit, ce n'est, qu'il n'est pas digne de moi. C'est une parole très forte. Le Seigneur va te dire, ça n'a aucune valeur pour moi. Pas juste un peu, mais rien du tout. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Oh Seigneur, la parole est vraiment forte. Nous aimons tous nos parents, nos enfants, notre prochain. Certainement, c'est juste, bien sûr. Mais le Seigneur dit, si tu les aimes davantage que moi, alors tu peux oublier toutes les autres choses que tu as faites pour le Seigneur. Même si ce sont de bonnes œuvres, c'était de l'endurance, et si tu as porté beaucoup de choses, si tu as mis en évidence des apôtres, des menteurs, toutes ces choses, vous pouvez les mettre de côté, cela ne sert à rien. Alors, nous ne sommes pas dignes de lui. Dans la constitution du royaume, le Seigneur dit une parole très forte, Matthieu 6, 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est si simple. Si notre trésor est terrestre aujourd'hui, alors notre cœur devient aussi terrestre. Si mon cœur porte vers des choses terrestres, en fin de compte, mon cœur y sera aussi. Tu ne peux pas séparer ton trésor, dire ton trésor est là, que ton cœur est vers le Seigneur. Le Seigneur, ça ne va pas, le Seigneur va te dire, car là où est ton trésor, si ton trésor est dans ta maison, dans ton travail, dans tes enfants, dans ta famille, alors là aussi, ton cœur sera là. Alors, aux yeux du Seigneur, tu es déjà tombé. Oh, Seigneur Jésus. Encore un verset dans Marc, verset 4, verset 19. Il est écrit, il parle ici de ceux qui ont entendu la parole, mais qui est tombée dans les ronces, les épines. Et au verset 19, il est écrit, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Elle devient infructueuse. Elle n'était pas infructueuse, mais elle devient. Ça signifie que le premier amour était là, à un moment donné. Mais ensuite, il y a des choses qui sont entrées de manière sournoise. Les soucis du siècle sont entrés. Est-ce qu'elles ne sont pas entrées? La séduction des richesses. Si ces choses entrent, alors elles vont prendre la place du premier amour pour le Seigneur. Et le résultat est que la parole sera étouffée et nous portons plus de fruits. Seigneur, sauve-nous. Amen. Et ensuite, il est dit dans Apocalypse, verset 5, souviens-toi donc d'où tu es tombé. C'est une chute. À l'université, nous dirions là où tu es tombé. Tu as chuté, tu as fait un échec. Et Seigneur, souviens-toi, dis, souviens-toi. Ça ne signifie pas qu'ils ont oublié d'où ils sont tombés. Alors, d'où est-ce que je suis tombé? Et le Seigneur te dit, tu as oublié cela. Non, ce n'est pas une fête d'avoir oublié. Le problème est que l'Église à Éphèse n'a plus de de sentiment par rapport au fait qu'elle a quitté ce premier amour. Elle n'a pas cette conscience. Rappelle-toi, bien, rentre toi-même et réfléchis à ce sujet. Ça signifie que le sentiment pour la vie a diminué. L'amour pour le Seigneur a un lien avec les sentiments qu'on a. Un mort n'a pas de sentiments. Et si quelqu'un est vivant, il a des sentiments. Et l'Église à Éphèse n'a plus de perception qu'elle a perdu son premier amour. C'est pourquoi le Seigneur a dit à l'Église à Éphèse qu'il a, il lui promet l'arbre de la vie. Pourquoi? Parce que la vie a diminué déjà. La vie dans les saints est devenue plus faible. Ils ont diminué, puis en fin de compte, ils n'ont même pas remarqué qu'ils ont quitté le premier amour. C'est pourquoi le Seigneur appelle les vainqueurs à venir à l'arbre de la vie, afin que la vie augmente à nouveau. Bien sûr qu'ils ont encore peut-être lu la Bible, mais en lisant la Bible, ils n'étaient plus pour la vie. Ils n'ont plus touché le Seigneur ou mangé le Seigneur dans la parole pour recevoir la vie. C'est étonnant dans cette église. Ils pouvaient distinguer toutes choses, discerner toutes choses. Ils pouvaient même remarquer si les apôtres disaient la vérité. Ils ont remarqué qui étaient les méchants. Ils ont remarqué qui étaient les menteurs, mais ils n'ont pas remarqué qu'ils avaient perdu le premier amour. Ils ont tout remarqué, mais ça, ils ne l'ont pas remarqué. Les choses extérieures, on peut les discerner facilement, mais les choses intérieures, on ne les remarque pas si facilement. Oh Seigneur Jésus, nous ne voulons pas être de telles personnes qui, dans l'Église, nous analysons, oh, qu'est-ce qu'ils ont fait, est-ce que c'est bien, c'est pas bien. Puis après, je vais donner mon opinion à ce sujet. Et en fin de compte, je ne remarque pas l'état de mon propre cœur. Et dans cette épître à Éphèse, nous voyons à quel point il est important de vaincre. Nous ne devons pas mettre les œuvres au premier plan, mais l'accent doit être porté sur l'amour en nous pour le Seigneur. Si cet élément est manquant, alors toute chose ne sert à rien. Et c'est ce qu'il a dit, il m'a dit aussi en ces jours. Nous avons aussi beaucoup d'œuvres. Nous faisons beaucoup de choses, vraiment. Nous avons une page Internet. Nous avons un canal YouTube. Nous avons des exposés. Nous avons la littérature. Nous prêchons l'Évangile. Nous faisons beaucoup de choses. Mais le Seigneur, dans ce point, il m'a parlé. Il m'a dit, dans tout ce que tu fais, la première chose que tu dois faire, c'est revenir à ton premier amour. Ça ne signifie pas que tu ne fais plus d'œuvres. Non, il est écrit, clairement. Il a dit, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Tu ne peux pas dire, ah, merveilleux, maintenant je n'ai plus besoin de faire quoi que ce soit. Alléluia, je suis libre et je n'ai plus qu'à m'asseoir ici et aimer le Seigneur et c'est tout. Non, ce n'est pas ce qui est écrit. Il y a aussi des œuvres, les premières œuvres, mais ces premières œuvres doivent vraiment être motivées et issues de notre premier amour pour le Seigneur. Et toutes les œuvres que nous pratiquons ici, ces jours, j'ai souvent dit au Seigneur, nous ne voulons pas juste les faire parce que ce sont des bonnes œuvres, mais nous voulons en tout premier lieu, apporter ce premier amour pour le Seigneur. Et issu de ce premier amour pour le Seigneur, il y a ces œuvres qui vont émaner. Tout le reste ne sert à rien. Et en fin de compte, le Seigneur va nous dire, comme dans Matthieu 7, si nous lui disons, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Est-ce que nous n'avons pas eu une belle page Internet? Est-ce que nous n'avons pas tourné beaucoup de vidéos en ton nom? Est-ce que nous n'avons pas fait ceci ou cela? Et le Seigneur va nous dire, quoi? Je ne vous ai jamais connu. Voulez-vous recevoir un tel verdict? J'ai dit au Seigneur, ces derniers jours, j'ai dit, non, je ne veux pas entendre cela de ta part. Alors le Seigneur me dira, alors repens-toi et pratique tes premières œuvres, que ce que nous faisons soit issu du premier amour pour le Seigneur. Tout le reste est sans valeur pour le Seigneur. Amen, Seigneur Jésus. Celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu.
Amen.
Retournons à l'arbre de vie. Christian va nous montrer davantage la prochaine réunion. Louez le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut avoir quelques prières et ensuite on fera une pause. Et ensuite on continuera. Amen.